Isère Classique, le magazine musical de RCF Isère, présenté cette semaine par Éric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Dominique Merlet, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être présent dans nos studios de RCF. C'est un grand plaisir pour nous. Je voulais vous poser une question qui, quelque part, fait un lien entre le pianiste, l'artiste et les vignerons qui nous ont reçus, parce que vous avez fini votre carrière en enregistrant à La Guayotte, à Vosne-Romanée, grâce au concours d'Aubert Villene, donc du domaine de la Romanée-Conti, au couvent des Jacobins, la maison Louis Jadot, à Beaune, grâce à l'amitié de Pierre-Henri Gagé. Certains vignerons, alors c'est la mode, hein, disent s'effacer devant leur grand cru, devant leur terroir, pour laisser s'exprimer l'essentiel. Un vigneron comme Frédéric Munier dit même que sa signature est l'absence de signature. C'est-à-dire qu'un grand vigneron ne laisse pas sa trace. Il ne laisse s'épanouir que le terroir. Et est-ce que vous, quand vous jouez Brahms, quand vous jouez Chopin, quand vous jouez Schumann, vous vous retirez pour ne laisser apparaître que les compositeurs? Ou est-ce qu'il y a même, est-ce qu'il y a un style, Dominique Merlet, qui est reconnaissable immédiatement? Est-ce qu'il y a une analogie qui est possible, en sachant que celle des vignerons est un peu fantasmée et, à mon avis, complètement fausse?
C'est pas identique, parce que moi, je m'engage totalement. Hein, dans... J'ai commencé ma carrière discographique avec Schumann, hein, qui était vraiment un compositeur qui m'était très cher. Et j'étais parti d'ailleurs pour enregistrer l'intégrale de Schumann. Et c'est des tribulation matérielle idiote de producteurs qui se sont fâchés. Enfin, si on fait que je n'ai pas été au-delà de la moitié, j'ai enregistré la moitié de l'intégrale Schumann, hein, ce qui est quand même beaucoup, hein, parce que ça représente plusieurs coffrets. Hein. Mais je me suis totalement engagé et je ne peux pas dire que mon style se reflète dans ces disques, mais quand même, je pense qu'il y a une image, puisque ces disques ont remporté des récompenses assez importantes, un grand prix du disque, toutes sortes de choses. Donc je pense que les gens ont été frappés par la qualité de ces disques, je pense, enfin j'espère.
Et est-ce qu'on doit, malgré tout, et malgré votre souci de vous engager et de laisser libre cours à une sorte d'exclusivité du compositeur, est-ce qu'on peut quand même dire, voilà, ça, c'est le style Merlet. Il y a un style Merlet, et c'est une contradiction. C'est une contradiction que n'arrivent pas à résoudre les vignerons, en disant, je m'efface complètement devant mes terroirs, mais finalement, plus il s'efface, et plus on sent la patte du vigneron. C'était un peu la question. C'était, à partir de quand on donne la signature personnelle d'un artiste, et à partir de quand on dit on l'entend plus? Est-ce que c'est possible de plus entendre l'artiste et de dire on ne sait pas qui joue? Est-ce que c'est d'abord quelque chose qui est possible, et est-ce que c'est vraiment favorable de pouvoir dire on ne sait pas qui? Parce qu'on sait, quand on entend Mravinsky, on reconnaît la patte de Mravinsky, ouais. Et pourtant il s'efface aussi, mais en s'effaçant il laisse une empreinte énorme. Et est-ce que c'est votre cas, et est-ce que vous en êtes conscient, ou est-ce que vous dites non, moi, quand j'interprète Brahms, c'est Brahms. Je ne me mets pas en avant, mais sans vous mettre en avant, vous êtes là.
Oui, non, je m'engage plus que ça, et je pense qu'il y a une manière de jouer Brahms, une manière de jouer Chopin, une manière de jouer Ravel, Debussy, qui est ma marque quand même. Hein. Je ne renie pas mon influence sur la manière de jouer ses œuvres.
Hein. Vous assumez,
oui, oui,
votre présence?
Absolument.
D'accord.
Oui.
Dans cette présence, donc, il y a un disque qui est un petit peu inattendu dans votre discographie. C'est Roger Ducasse. Alors Roger Ducasse, on peut enregistrer Brahms, Schumann pour faire comme tout le monde, mais Roger Ducasse, non. Roger Ducasse, c'est un choix personnel.
Oui, c'est des raisons vraiment personnelles, parce que Roger Ducasse a joué un très grand rôle dans ma formation. Hein. Roger Ducasse était un ami très proche de mon grand-père maternel, qui était professeur de lettres, et qui était un peu son conseiller pour beaucoup de choses. Hein. Donc on a d'ailleurs toute une correspondance entre Roger Ducasse et mon grand-père. C'est publié chez Mardaga, l'éditeur belge Mardaga. Ça s'appelle « Lettre de Roger Ducasse à son ami André Lambinet ». André Lambinet, c'était mon grand-père. Malheureusement, on n'a pas les lettres de mon grand-père, mais on a les lettres de Roger Ducasse qui sont absolument passionnantes, très drôles souvent, très mordantes, assez vaches. Mais c'est toute une histoire, c'est toute une époque, enfin c'est formidable. Et alors, quand j'ai eu 9 ans, il habitait, il a été retiré dans le Médoc. Dans le Médoc, vous voyez, on est dans les 20 encore, et au Taillan, cette petite commune qui vient d'être frappée terriblement par les orages, Roger Ducasse était retiré là, et quand j'ai eu 9 ans, ma mère a décidé de m'emmener le voir pour me tester, voir un peu qu'est-ce qu'il pensait de mes aptitudes. Et voilà. Et là, le jugement a été positif. C'était d'ailleurs très drôle parce que, au bout de 2 ans, ma mère lui a posé la question est-ce qu'on peut faire confiance pour l'avenir de Dominique ? Et elle attendait la réponse avec anxiété, évidemment. Et puis est arrivé dans la boîte à lettres un petit mot sous une petite enveloppe bleue. Il n'y avait rien du tout. Alors elle s'approche, elle approche ses yeux. Puis il y avait une petite tache au milieu de la lettre. Il y avait marqué, en tout petit, il y avait marqué « oui ». Voilà, alors on s'est dit que bon, ben là on pouvait y aller. Et c'est comme ça que mes parents ont décidé de m'envoyer à Paris. Et c'est de là que j'ai commencé, j'ai contacté Nadia Boulanger, j'ai contacté l'assistante de Jean Doyen, etc. Et tout est parti de là. Donc ce rôle de Roger Ducasse a été très important, évidemment.
Et je crois qu'il était très gourmand et très compétent dans le contrepoint, oui. Particulièrement.
Oui, c'était un fanatique du contrepoint, hein. Il fallait pas trop lui parler de l'harmonie, mais lui, c'était un adepte du contrepoint. Et alors, évidemment, dans sa musique, c'est un peu touffu, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes enchevêtrées, de contrepoints. Et j'ai tenu, évidemment, à faire un disque qui lui est consacré. Ce n'est qu'une partie, malheureusement, de sa musique. Elle a un défaut, cette musique, c'est qu'elle demande des grandes mains. Et je n'ai pas des grandes mains. Voilà, elles sont assez bonnes, hein, je crois, mais elles sont plutôt petites. Et donc, pour Roger Ducasse, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Vous voyez, j'ai petit pouce, petit cinquième. Oui, voilà.
On mettra une photo sur le site. Alors, nous allons écouter, Dominique, la troisième étude de Roger Ducasse. Et je vois dédiée à Cécile Lambinet.
Alors Cécile Lambinet,
qui avait 18 ans à l'époque, c'est votre mère.
C'est ma mère.
D'accord.
Cécile Lambinet, elle était toute jeune, elle avait 18 ans à l'époque. Voilà, mais elle jouait bien du piano. Et voilà, alors j'ai mis l'étude évidemment sur le disque, évidemment.
Nous allons l'écouter.
Thank you.
La troisième étude de Roger Ducasse, donc dédiée à la maman de Dominique Merlet. Dominique, vous avez l'image d'un professeur strict, rigoureux, parfois austère. Et quand on vous connaît, c'est pas du tout ça. Et en plus, vos élèves démentent constamment cette image. D'où vient-elle ?
Eh bien, d'un certain laisser-aller ambiant contre lequel j'ai lutté dès que je suis arrivé au conservatoire. J'étais un professeur très jeune, évidemment beaucoup plus jeune que les autres professeurs. Et mon grand principe, c'est que plus on insuffle la rigueur auprès des élèves, plus ils se sentent libres. La liberté dépend de la rigueur, en fait. Parce que celui qui dit « Oh ben je fais ce que j'ai envie », c'est n'importe quoi. Voilà, c'est le risque du n'importe quoi. Et malheureusement, on a un peu pas mal de n'importe quoi. Hein. Et surtout, quand on étudie les œuvres de Chopin, moi j'ai énormément de facsimilés, de manuscrits de Chopin. Et on est frappé par la minutie, l'extrême minutie de Chopin, aussi bien pour les respirations, pour les liaisons, pour les pédales. Et j'ai fait toute une étude sur les pédales chez Chopin, étude qui a été relayée, diffusée beaucoup. Enfin, j'ai fait cette conférence énormément. Et ça a été très, très bien relayé et suivi. Je l'ai fait dans plusieurs pays, hein, dans plusieurs pays, l'étude sur la pédale chez Chopin. Et ça change énormément de choses. Mais les gens qui font n'importe quoi, ils mettent la pédale n'importe comment. Et c'est, malheureusement, ça brouille énormément l'image de Chopin.
Alors, vous avez enregistré un coffret dédié à Chopin, en piochant un peu des œuvres par rapport à vos affinités, à l'équilibre d'un programme. Et dedans, il y a trois nouvelles études pour la méthode des méthodes. Et quelle est cette œuvre mystérieuse que je ne connaissais pas ?
Oui, elles sont pas très jouées parce qu'elles font pas partie des 24 grandes études de virtuosité. Et elles sont adorables. Elles sont tellement jolies. Elles sont vraiment... Alors, je suis très contente qu'on les évoque parce que c'est des petites merveilles, ces études. C'est pas des études très difficiles, hein, c'est pas des études très difficiles, mais c'est poétiquement, elles sont merveilleuses. Et je suis très heureux qu'il y en ait une que vous ayez choisie.
Nous allons écouter la première.
Oui. Thank you.
un Chopin peu connu, glissé dans le coffret de Dominique Merlet. Dominique, on vous connaît peu comme chambriste. On a l'image de vous, de quelqu'un qui joue seul, mais qui ne se mélange pas trop. Alors qu'en fait, vous avez énormément joué, notamment avec le trio à cordes de Paris, des Mozart, des Brahms, des Schumann. Et on n'a pas l'image de ce mélange avec d'autres musiciens. Et c'est une image, une fois de plus, qui est fausse.
Oui, c'est une image qui est fausse, tout à fait. Parce que nous avons fait beaucoup de concerts. On a joué dans des festivals, on a joué pour la radio énormément, parce que les trois musiciens étaient issus de l'Orchestre National de France. Hein, et voilà, donc nous avons fait beaucoup de concerts. Je ne me souviens plus si nous avons joué à Grenoble, mais c'est bien possible, il y a une trentaine d'années, je ne sais pas. Alors on a fait les deux quatuors de Mozart, les trois quatuors de Brahms, le quatuor de Schumann, et puis dans un autre festival j'ai joué le quintet de Franck, hein, cette œuvre extraordinaire de Chausson, hein, avec le violon solo, hein, le concert de Chausson, ce qu'on appelle le concert de Chausson, et que j'ai joué aussi. J'ai joué le quintet de Dvorak aussi, au festival de... c'était à Aix-en-Provence. Voilà, donc j'ai joué beaucoup.
Mais alors, c'est une autre façon de concevoir la musique, parce que Dominique Merlet seul et Dominique Merlet avec un ensemble.
Ben oui, parce qu'il y a une espèce de... Il faut chercher une osmose avec les autres musiciens. Mais je m'entendais très très bien avec eux et on a beaucoup travaillé, on travaillait beaucoup. Hein. C'était vraiment une recherche d'homogénéité, de qualité de style. Il y a des bandes dans les archives de la radio, il y a d'ailleurs pas mal de bandes de nos interprétations. Hein. Oui, oui, oui.
Et c'est un plaisir qui est... Que vous estimez comment par rapport au fait de jouer seul, le fait de vous rapprocher d'autres musiciens, l'attitude globale doit être différente.
Oui. C'est parce qu'il y a une concertation entre les autres musiciens et un enthousiasme partagé et quelquefois des préoccupations, des soucis aussi, parce qu'on se demande si on est bien ensemble, etc.
Enfin, il peut y avoir des oppositions de conception des œuvres.
Oui, ça peut arriver, oui.
Parce que vous, quand vous arrivez devant votre piano, vous savez, vous avez la possession du chemin que vous allez parcourir. Et il faut partager ça avec d'autres musiciens.
Oui. Oui, mais vous savez, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Hein. Il y a toujours des imprévus. Hein. On est à la merci. On est à la merci de petits incidents ou d'une note qui se désaccorde. Non, c'est pas tracé comme ça, tout droit. Bon, enfin, évidemment, on a prévu beaucoup de choses, on a essayé de prévoir l'imprévisible, hein, mais bon, voilà.
Et je me souviens que vous avez enregistré il y a quelques années un disque simplement pour mettre en valeur un piano que vous aviez chez vous.
Ah oui, ça c'était... C'est un piano qui était vendu par un amateur tout près de chez moi, là où j'habitais. Et il déménageait, il n'avait plus la place de l'emporter. Donc il cherchait un acheteur. Alors il se trouve que ce piano, bon, à l'époque ça ne m'intéressait pas du tout parce que je venais d'acheter un piano neuf. Blüthner. Et puis il m'a relancé, et c'était un piano en fait de 1895. Et en fait, ce piano était un Steinway d'origine qui avait eu que deux propriétaires. Alors, je l'ai retrouvé absolument dans son jus d'origine. Hein. Or, à l'époque, les Steinway, c'était des pianos extraordinaires, absolument fantastiques, avec une longueur de son, une qualité, c'était qu'on ne trouvait plus. Hein. Et j'avais beau avoir déjà un Steinway, j'ai quand même été le voir, et là j'ai été stupéfait de la qualité de ce piano. Et du coup, j'ai mis le Blüthner à la cave, hein, et j'ai fait la place pour le petit Steinway. Hein, et il est tellement, tellement beau que j'ai fait un disque avec, que j'ai appelé l'âge d'or.
Alors je propose que nous écoutions ce piano avec le pianiste dans Robert Schumann, L'oiseau prophète, la scène de la forêt.
Oui, qui est une pièce merveilleuse.
Nous recevions récemment Alain Meunier et Dominique, et je souhaitais lui poser une question au sujet de son travail quotidien. Parce que le violoncelliste, en solo, n'a pas vraiment beaucoup de choix, et ça fait 60 ans qu'il joue presque tous les jours les suites pour violoncelle de Bach. Alors, comme il n'a pas le choix, Est-ce que c'est vraiment le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre au violoncelle, ou est-ce qu'il est obligé d'idolâtrer cette œuvre parce que finalement, il n'y a pas de possibilité de jouer autre chose? Et il m'a dit, je n'ai pas le droit de me poser cette question. Je ne peux pas me poser cette question. Mais vous, en tant que pianiste, vous avez un éventail de choix. Vous avez une supériorité par rapport à un violoncelliste qui est tout à fait incroyable. Vous êtes totalement dégagé de cette petite obligation, de cette petite servitude de jouer toute votre vie la même œuvre, parce qu'il n'y en a pas d'autre, seul.
Oui, mais on est privilégié parce que c'est une grande chance, parce que on n'a jamais assez de temps, jamais assez de répertoire, et on peut l'amplifier constamment. Même avant d'arrêter de jouer, j'avais commandé chez le marchand de musique des nouvelles partitions. Donc, ça n'arrête jamais. Jamais. On peut continuer à travailler tout le temps, et y compris les œuvres du répertoire classique. Les sonates de Beethoven, c'est jamais fini. Les sonates de Mozart, les concertos, c'est jamais fini. Enfin, c'est... Il faudrait trois vies pour arriver au bout du répertoire.
Je parlais surtout au niveau du travail du soliste. Je caricature toujours un peu et Alain Meunier ne m'en voudra pas, mais il passe sa vie à essayer de trouver des choses nouvelles dans la même œuvre, oui. Alors que vous avez passé votre vie à trouver des choses nouvelles dans de nouvelles œuvres. Et je crois que ça change quand même beaucoup de choses dans une carrière.
Oui, enfin, c'est évidemment, il n'y a que lui qui peut répondre à cette question difficile.
Hein, il ne veut pas y répondre.
Hein, oui, c'est ça. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il ne veuille pas y répondre, parce qu'il est coincé. Il est coincé. Hein, mais c'est un tel musicien qu'il fait toujours de la musique. Hein, Alain Meunier, il fera toujours de la musique jusqu'à son dernier souffle. Hein, ça, je ne suis pas inquiet. Hein, c'est naturellement frustrant pour lui de ne pas pouvoir élargir ce répertoire. Hein, mais moi, quand je l'entends, je suis toujours émerveillé du musicien qu'il est. Hein, donc, c'est Alain Meunier. Hein,
Oui, non, mais je fais toujours ce genre d'interrogation pour voir si on peut pousser certaines portes. Pour voir s'il y a des possibilités autres et à quoi ça correspond vraiment une œuvre qu'on sacralise, si c'est parce qu'on n'a pas le choix ou si c'est parce que vraiment c'est un chef-d'œuvre, auquel cas on peut poser la question. Oui. Vous parliez de Beethoven, vous avez terminé votre carrière discographique avec des sonates de Beethoven. Oui. C'est un choix tardif dans votre évolution ou vous avez toujours aimé les sonates de Beethoven?
Non, j'ai pas joué, j'ai jamais fait l'intégrale Beethoven. Hein. J'ai fait des choix. Bien ciblé, hein, de certaines sonates, hein, que j'aime particulièrement. Et évidemment, un des disques auxquels je tiens le plus, c'est le premier disque des sonates de Beethoven, là, que vous avez enregistré, c'est l'opus 10 numéro 1, les Eroica Variations et l'opus 111. Ça, c'est un disque pour moi très important parce que c'est un des sommets, je pense, de ma discographie. Hein, oui.
Alors Dominique, nous arrivons au terme de notre émission. Nous allons nous quitter, peut-être pas avec le sommet de votre discographie, mais malgré tout avec une œuvre majestueuse qui est le cinquième impromptu de Gabriel Fauré.
Ah ben ça, c'est une œuvre, oui, très, très originale, hein, très originale et... très fugitive, étonnante.
Et merci beaucoup d'être passé nous voir dans nos studios de RCF. Merci beaucoup, Dominique.
Merci de votre accueil, merci.